est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris.
C'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
qui naissaient dans le rose. Poupées à fleurs, petites choses, à vous dont les frères peints en bleu portent la couronne des dieux. À vous les frêles bucoliques, vous jolis nœuds dans les cheveux, vous filles aînées ou filles uniques, perpétuel numéro de vous, qui naissez dans des coussins brodés de serments masculins. Vous les fautifs originels, au corps impur et sensuel, vous qui portez le feu de vie, au risque de vous consumer, mis à l'écart des incendies, dans l'uniforme des gynécées. Et les interdits, vous qui n'avez pour toute école que les 12 travaux d'Hercule, vos petites mains et l'envie folle de dire non en majuscule. À vous princesses échevelées, noyées dans vos contes des fées, aux mains de vos princes déchus, ogres assoiffés et perdus, ils sont légers les mots d'amour quand vos jolis cœurs cognent fort. Essayez encore.
Avec Hélène, dans un café on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain je lui téléphone, elle me dit que tout est fini.
Oh les filles,
avec Monique au cinéma on est allé, et au moment le plus tragique elle m'a prié de l'embrasser, et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier.
Oh les filles, oh les filles,
Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Je suis sorti avec Marcel.
Il est sorti avec Marcel.
Dans le métro, on s'est rencontrés.
Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai accompagné. Arrivé devant son HLM,
il me dit j'aime pas les PD.
Oh les filles, oh les filles.
Avec Karine, elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine, et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerai toute ma vie Karine, et rien ne pourra m'en empêcher.
Avec lui, avec lui.
Systématiquement, pour oublier les amis de ma femme, je bois systématiquement, pour oublier tous mes emmerdements, je bois n'importe quel jaja. Pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5, je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Voulez-vous passer pour un vieux réac ou une vieille bigote? Rien de plus simple. Voilà ce que je vous conseille, si c'est votre intention. À la fin du repas, entre la poire et le fromage, dites un truc du genre « À mon avis, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Non, il a des propriétés uniques que les autres animaux n'ont pas. » Tout le monde va vous tomber dessus. Comment? Mais on l'a encore dit tout à l'heure à la radio qu'il n'y avait 1% de différence génétique entre l'homme et le chimpanzé. Vous aurez beau arguer que oui, c'est vrai, mais nous avons aussi 70% de patrimoine génétique commun avec la banane. Ça ne convaincra personne. Par conséquent, il faut vous mettre à l'idée que, si vous contredisez l'idée commune que la science montre, prouve que l'homme est un animal comme les autres, vous êtes absolument fichu auprès de tous vos amis. En particulier, vous passerez pour un philosophe attardé qui, au temps de Descartes, pensait que les animaux étaient des machines, ou pire, une sorte de créationniste américain qui pense que Dieu a fait l'homme à son image et a créé le monde en 6 jours. Partons donc de cette idée. La science prouve que l'homme est un animal comme les autres. Admettons-le. Et je vous dis, moi, que si, en effet, la science prouve que l'homme est un animal comme les autres, alors cela prouve que l'homme n'est pas un animal comme les autres, parce que seul il dispose d'un moyen de connaissance infaillible, la science. Par conséquent, ce qu'il fallait démontrer. Repartons quand même de cette idée, l'homme est un animal. Un animal, en gros, c'est un être vivant qui, d'un côté, reçoit des informations du monde extérieur et qui, par conséquent, a des impulsions à transformer le monde extérieur à sa manière. Alors, parmi ces animaux, n'est-ce pas, nous savons bien que l'homme n'est pas caractérisé par la conscience, puisqu'il y a d'autres animaux conscients, lesquels nous n'en savons rien. Est-ce qu'une moule est consciente? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, la conscience. D'ailleurs, même si j'avais 15 jours au lieu de 15 minutes, je ne pourrais pas vous la définir, parce que la conscience, à la limite, est indéfinissable. Mais disons que nous savons aujourd'hui, contrairement à Descartes, qu'il y a d'autres animaux qui sont conscients. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont conscients? Ça leur fait quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle la conscience phénoménale. C'est-à-dire que les informations leur donnent des croyances et que les impulsions chez eux, dont ces impulsions dont ils sont conscients, c'est des désirs. Par conséquent, l'homme est un animal conscient comme beaucoup d'autres animaux. Premier cas, des croyances en question, on peut appeler ça la connaissance, c'est du côté des désirs, on peut appeler ça de l'action pour tous ces animaux conscients. Ce premier degré de connaissance qu'ont tous les animaux conscients, ça leur permet d'avoir ce que j'appelle des croyances sur le monde. Par exemple, cet animal conscient, je ne sais pas si une mouche, mais probablement une vache, n'est-ce pas ? Eh bien, elle a ici source de nourriture. Voilà une espèce de conscience qui s'impose à elle. Ou là, un prédateur. Ou là-bas, un partenaire sexuel. Voilà le type de croyance qu'un animal conscient peut avoir à propos du monde. Alors vous direz, et l'homme ? Et l'homme est comme les autres animaux. Mais il y a une différence qui va commencer à partir de maintenant du point de vue de la conscience. C'est que, alors que tous les animaux conscients peuvent avoir pour objet, c'est-à-dire peuvent avoir la conscience du monde extérieur dont ils tirent des connaissances, l'homme a la possibilité d'avoir une conscience sur ses états de conscience. C'est-à-dire qu'il peut avoir une croyance sur sa croyance. Je vais vous donner un exemple. La nuit dernière, je rêvais que je faisais une conférence sur le thème « Qu'est-ce qu'un être humain ?» et que j'avais rien du tout préparé. Je me suis réveillé en disant « Ouf, ce n'était qu'un rêve !» Bien, pour pouvoir penser « ce n'était qu'un rêve », le « ce » que je désigne n'est évidemment pas un état du monde, mais un état de ma propre conscience, autrement dit, une croyance antérieure qui peut être d'ailleurs aussi une croyance à propos de quoi que ce soit. L'homme a cette capacité que n'ont pas les autres animaux conscients pour diverses raisons, et en particulier parce qu'il dispose d'un langage, qui dispose de la négation, qui dispose de la possibilité par conséquent de penser non seulement ce qui est en face de lui, mais ce qui est possible, et pas simplement ce qui est réel, ce qui pourrait arriver, ce qui a pu arriver, et par conséquent, il est capable d'un deuxième degré de croyance, la croyance sur la croyance, qu'on appelle un jugement. Ce n'était qu'un rêve, ou j'arrive, je croyais que c'était de la nourriture, ce n'était pas, c'était simplement quelque chose en plastique, ce n'est pas comme la vache, n'est-ce pas ? Tu as tort, il ne fait pas chaud, et par conséquent, je peux juger en prenant comme objet la croyance, la mienne, ou celle d'autrui, et par conséquent, utiliser la négation, et pas simplement avoir pour objet des états du monde. Est-ce que c'est tout ? Bien sûr que non. Parce que les êtres humains ont non seulement la possibilité d'accéder à une croyance sur leur croyance, mais ils ont la possibilité d'accéder à un troisième degré de connaissance, qui est la croyance sur la croyance sur la croyance. C'est-à-dire que si on me dit « tu as tort, il ne fait pas chaud », je peux justifier la croyance que j'ai sur cette croyance. Je peux non seulement prononcer un jugement que j'estime vrai ou faux, et dans ce deuxième degré, j'ai accès au vrai ou au faux, au réel ou à l'imaginaire, et je peux me représenter mes états de conscience comme n'étant pas réels, et j'ai l'accès à ce deuxième degré, j'ai l'accès à quelque chose, ici c'était le rêve, à la distinction entre l'illusion et la réalité, et je peux justifier par un troisième degré la croyance de cette croyance, par une croyance sur la croyance sur la croyance, qui est une justification. Ce deuxième degré, c'est ce que j'appelle un pli de la pensée, parce que l'homme est capable de penser sur sa pensée et d'avoir par conséquent des jugements. Mais il est capable, je le disais à l'instant, d'un troisième degré de croyance en amenant une justification de ce deuxième degré, en disant « je pensais cela parce que » ou « j'ai la preuve empirique que » ben, ce n'était qu'un rêve, ou que ce n'est qu'une illusion, que ça n'est pas vrai, etc. Et je peux évidemment échanger à propos des justifications que j'ai sur mes croyances ou celles d'autrui. Donc j'ai un troisième niveau de conscience. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a un autre degré ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que l'homme est capable aussi d'atteindre un quatrième degré, qui est un autre niveau de justification de ses croyances sur les croyances sur les croyances. Quelle justification ? Un niveau de justification tel qu'il peut recourir à des procédures universelles telles que n'importe qui accédant à ce niveau de justification sera d'une certaine manière, sinon obligé d'en être d'accord, du moins penser que ces procédures elles-mêmes sont justifiées. C'est un quatrième degré, c'est le quatrième degré de connaissance, la croyance sur une croyance sur une croyance. C'est ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire l'accès à des procédures universalisables de justification des jugements, et selon les types de sciences, ça s'appelle une déduction, ça s'appelle un montage expérimental, une démonstration, ou ça s'appelle, dans les sciences humaines, un certain nombre de procédures que chacun peut refaire, l'observation participante, ou quel que soit le type de méthode auquel on recourt.
Ses parents voulaient l'appeler John, ils auraient dû la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Déjà tout petit, il était fou de vidéos, surtout les films de super-héros. Enfermé tout seul dans le living, il regarde 10 fois Batman et Robin. Ses parents voulaient l'appeler John, ils auraient dû la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Au cours de géographie, il est tout le temps puni. Il croit que la tour Eiffel est Atari. Et ses bulletins sont de plus en plus gravos. C'est normal vu tous les cours que Mario brosse. Ses parents voulaient l'appeler John, ils ont aidé la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Quand il a une grosse crise de larmes à l'école et qu'on lui demande « Mais pourquoi t'es triste ?» De toute façon, comme le dit son institutrice, seule sa Nintendo le console. Ses parents voulaient l'appeler John, ils auraient dû la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont surnommé Mario à cause de ça. Ses parents voulaient l'appeler John, ils auraient dû la PlayStation. Et ses amis, ceux qui l'appellent Sega, l'ont surnommé Mario à cause de ça.
Les cons sont les très proches parents des caves. Si ce n'est que les caves ont la tête un peu plus concave. Les cons sont peut-être un peu plus cons que les caves. Oui, mais les caves seront toujours beaucoup plus caves que les cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y a rien à faire avec eux autres, lui ils sont cons, moins c'est de leur faute. Allez donc blâmer leurs enfants. Les cons sont de la confiture de caves. D'ailleurs, les caves sont aussi bons que les cons sont caves. Les cons sont convaincus qu'ils sont pas caves. Pourtant, les cons sont sûrement pas moins caves. Les caves sont cons. Les cons sont quelquefois intelligents, mais ça ne les empêche pas pourtant de faire les caves de temps en temps. Les caves, y'a rien à faire avec eux autres, lui sont cons, moi c'est de le fond. Allez donc blâmer leurs enfants. Les cons.
Hexagone, l'émission 100% AOC.
mange n'importe quoi depuis tellement longtemps. C'est trop tard pour les analyses. Les apprentis sorciers et les médicaments ne font pas toujours ce qu'ils disent. Les morts le savent. On trouve n'importe qui derrière les étiquettes. Des gouvernements sans éthique. Les apprentis sorciers ne se vantent jamais d'avoir eu des accords tacites. Les morts le savent. Je viens voir les épaves quand je joue sur la plage. Tout seul, tout seul.
Avec un excellent Chianti, je t'invite à ma table et j'ai cuisiné un bout de ton cerveau. Puis jette ta carcasse au cochon, nettoyer les zones. Je me lèche les babines et tu rigoles comme si t'as pas vu Shining. Jack Nicholson, pourquoi je débloque? Tu veux savoir? Viens, mon bloc construit sur un cimetière indien. Merde, j'en ai jamais marre des crimes. En fait, faut que j'aille remettre mon masque de scream. Devine qui va t'appeler? Allô? Oui? Moi je tue toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween?
Ah, où est le gardien du campus?
Il est die. En tant que guerre, il me filerait une médaille.
Dans mon vice, pas de rival. Bonjour docteur Hannibal. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon vice, pas de rival. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux.
Je tue gratuitement, sans contrat honoré. Et pour toi, c'était pas l'heure de faire un tour dans la forêt. J'aime bien le goût délicat qu'a la jeunesse dorée. À papa, je te les soigne façon gorée. Et où tu vas t'échapper avec tes jambes en charpie. Ça va être un putain de puzzle, ton autopsie. Tu connais les preuves pour être un meurtrier crédible. Faire dégueuler le médecin légiste. Moi, je fais pas de fric avec les morts comme Buffy. Je veux juste un peu mordre. Amenez-moi Buffy et les trois sœurs de charme. Tu sens la raideur de mon arme. Au fond, je m'en bats les couilles de quoi t'as l'air, bitch. J'ai même niqué la sorcière de Blair Witch. Attends. Je crois que j'ai oublié un détail. Hein? Quoi? En temps de guerre, il me filerait une médaille.
Dans mon bis, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bis, pas de rival. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux.
Tronçonneuse allumée, faut que j'en remette une couche. Toi, t'es comme Tony, attaché dans la douche. Oublie Mani, la blonde en maillot bleu l'a saignée. C'est ma complice, une vampire dans le sang, elle aime s'y baigner. Je vais aller à Monaco m'occuper du prince régné de Stéphanie. J'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la stripteaseuse au bord de la piscine. Au fait, pour les cadavres, y a pas mieux que l'acide. À force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos. Ta femme était trop belle, Brad Pitt. Moi, c'est John Doe, pas Don Joe. Celui-là aussi, je l'ai liquidé. Ce petit français, faisait style sourcil français. Quand je suis arrivé, mais t'inquiète, il a pas souffert. J'ai tiré direct dans le cœur, puis son ventre, je l'ai ouvert. Son foie, comme d'hab, je l'ai mangé. J'ai mis sa tête dans un bocal, un souvenir. Et je me suis greffé ses cordes vocales.
Dans mon vice, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon vice, pas de rival. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux. Dans mon vice, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon vice, pas de rival. Appétit cannibal. Le plus méchant des animaux.
Alors voilà, nous avons du côté de la connaissance 4 degrés de connaissance, dont les 2e, 3e et 4e, dont les 3 supérieurs, entre guillemets, il n'y a aucune raison d'en faire une valeur morale, eh bien, dont les 3 supérieurs sont propres à l'homme parce qu'ils ne portent pas sur le monde, ils portent sur des croyances elles-mêmes que nous pouvons avoir ou que nous avons sur le monde. C'est-à-dire ce qui se passe pour ces animaux qui sont conscients, qui ont des croyances, et reprenons l'idée de ces animaux qui ont des désirs parce qu'ils sont conscients de leurs impulsions. Du point de vue de l'action, n'est-ce pas? Ces animaux ont un premier degré qui sont des désirs, qu'on peut appeler des agents, parce que les animaux en question sont des agents du monde. Ils sont conscients et ils agissent, n'est-ce pas, selon des désirs qui les meuvent, qu'on peut appeler des mobiles précisément parce que ça les meuve. Alors par exemple, ils cherchent de la nourriture, ils fuient le prédateur, ils tentent de séduire le partenaire. Voilà un premier degré qui est accessible à tous ces agents. Mais l'homme a la particularité d'avoir non seulement des désirs sur le monde, mais d'avoir des désirs sur ses désirs. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième degré? Des désirs qui sont quelque chose comme des volontés. Par exemple, j'éprouve, c'est l'exemple que je prends, le désir de boire, mais je ne désire pas désirer boire. Par exemple, je ne veux pas boire, je veux m'abstenir. Parce que je conduis, ou parce que je suis abstinent, ou pour toute autre raison, je ne veux pas. Je dis non à ce désir que j'estime non droit, que j'estime non correct, si vous voulez. Ce désir, c'est un désir qui ne porte pas sur les choses du monde, comme au premier degré, mais qui porte sur le désir lui-même, celui que j'éprouve ou celui que quelqu'un d'autre pourrait éprouver et que par conséquent, je condamne au nom d'une volonté. La différence entre le désir et la volonté, c'est que la volonté, c'est un désir qu'on peut appeler de deuxième ordre. l'idée qu'il y avait des désirs qui peuvent être bons ou mauvais n'était pas possible au premier niveau. Tout simplement, bon ou mauvais, ou droit ou non, ou correct ou non. C'est ce que j'appelle l'effet d'un pli de la pensée, c'est-à-dire que la pensée se prend elle-même pour objet, et c'est cela que j'appelle un jugement. Donc, il y a un troisième degré, des désirs de désirs de désirs, c'est-à-dire des volitions, c'est-à-dire le mot est barbare, disons, des volontés justifiées, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire que je suis capable de dire pourquoi je ne veux pas, je me refuse à céder à ce désir, ou au contraire, pourquoi j'approuve ce désir, je dis, c'est un bon désir, je veux faire ceci, il faut faire cela. Et à partir du moment où je dis il faut, c'est que j'invoque quelque chose qui sont des raisons d'agir, que je peux expliquer, que je peux justifier, que c'est un niveau de justification des désirs qui est comme un troisième degré de l'impulsion fondamentale et auquel l'homme seul peut avoir accès. Et ça, ces raisons, ce sont des justifications rationnelles des valeurs, en quelque sorte. Alors, quelles sont ces valeurs? La survie de l'humanité, la justice sociale, la science, ou alors des choses beaucoup plus égoïstes, mon honneur, ma gloire, ma richesse, ou alors, ce que vous voulez, la grandeur de Dieu, la nation, la race supérieure. Tout ça, ce sont des valeurs humaines. Vous allez me dire, ah oui, mais alors, ça c'est des justifications, ça c'est des valeurs, mais y a-t-il une valeur des valeurs? C'est-à-dire, entre ceux qui se battent pour le triomphe de la race supérieure et ceux qui se battent pour la survie de l'humanité, est-ce qu'on est condamné à ce qu'on appelle le polythéisme des valeurs? Tout se vaut, ben, ça dépend des valeurs, ça dépend des justifications. Non, car je pense que de la même façon, l'homme est capable d'accéder à un quatrième degré qui est des valeurs universellement justifiables. Des valeurs universellement justifiables en ce sens que on appellera ça l'humanité. L'humanité, c'est la communauté de tous les êtres rationnels, c'est-à-dire définis par tous les traits que je viens de donner, qui peuvent se parler les uns les autres, et qui sont par conséquent égaux en tant que parlants, et qui par conséquent ont accès à cette procédure universalisable de justification des valeurs qui est contenue dans cette idée même d'humanité. Le quatrième degré étant celui que je viens de définir, le passage de la valeur d'une valeur celle des dieux de ma tribu aux valeurs universelles, reconnaître l'humanité en tout être humain rationnel, c'est le reconnaître comme un interlocuteur possible et considérer cette relation d'interlocution ou d'échange comme le fondement de toute autre valeur et de toute autre valeur morale. Par conséquent, voici ma conclusion. Il y a une correspondance entre les deux modes de rationalité. Du côté de la pensée connaissante, de la connaissance, ou du côté de l'action, de la pensée pratique. Au premier niveau, nous avons des agents qui sont des animaux conscients, il y en a beaucoup, qui ont des croyances ou des désirs. Au deuxième degré, nous avons ce que j'appelle le premier pli, c'est-à-dire nous ne sommes plus seulement des agents, nous sommes sujets du monde. Nous sommes capables d'avoir des jugements, c'est-à-dire de dire qu'une croyance est vraie ou fausse, ou que notre accès à la volonté, c'est-à-dire qu'un désir est correct ou non, droit ou non. Ça, c'est le premier pli, parce que ça, c'est une métaphore, le pli, parce que la pensée porte sur une pensée. Puis nous avons accès à un deuxième pli que j'appelle la personne. Nous sommes des personnes, c'est-à-dire que nous avons affaire à des jugements que nous pouvons justifier, où nous avons accès à des valeurs qui sont une forme de justification de nos volontés, c'est-à-dire de nos désirs de désir. Et nous avons aussi accès à ce que j'appelle un troisième pli, qui n'est plus la personne, qui est l'humanité, qui demeure une sorte d'idéal de procédure universalisable qui est l'idéal scientifique, au sens très large du terme, tel qu'il a été théorisé depuis les Grecs, savoir ordonné universel, idéal moral, valeur universelle. Et ça, je pense que c'est l'humanité, parce que être humain, c'est être capable de penser et d'agir non seulement comme un agent, comme un sujet, comme une personne, voire d'atteindre des sciences universalisables et une morale universalisable. Et ça, je pense que c'est l'humanité. Merci.
On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours.
corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, poule femme comme soufflée d'une sarbacane. Le ciel a même notre éclat depuis toi.
Je moins du creux de tes bras, je ne vois pas le bout du monde.
Ce soir, vous dire très simplement au revoir. Merci à vous tous qui, de Valenciennes à Thionville, d'Alsace en Bretagne, des Antilles à la Réunion, de la Manche à la Lozère, de la Haute-Savoie au Var et à la Corse. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur.
Hexagone, l'émission 100% AOC France.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
This is a man's world.
could be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Take us over the road. Man made the train, carried the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water, like my Bible said Noah made the ark. Man make them happy because man